édition spéciale.
À cause de leur religion, l'islam, ils ont été abattus. 49 personnes sont mortes, 40 autres ont été blessées, dont certaines gravement par les balles d'un homme qui a ouvert le feu avec un fusil automatique, une arme de guerre. C'était à l'heure des prières dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
Philippe Le Caplin.
Le tueur, muni d'une caméra, a diffusé une partie du carnage en direct sur les réseaux sociaux. La vidéo le montre sortir de sa voiture avant d'entrer dans l'édifice, ouvrir le feu sur les fidèles. Image subjective similaire à ceux d'un jeu vidéo de guerre. D'ailleurs, il explique avoir joué sur Fortnite, un jeu vidéo sorti récemment très populaire chez les ados. Cela pour s'entraîner à devenir un tueur et à danser sur le cadavre de ses ennemis, explique-t-il. Ainsi, il a tiré et tiré encore. Une femme criait, il lui a tiré en plein visage, raconte un fidèle. Un autre a réussi à arracher l'arme à l'assaillant, qui a donc arrêté de semer la mort pour s'enfuir, courir jusqu'à sa voiture et à l'extérieur de la mosquée. Prakash Chapotka témoigne de ce qu'il a vu.
Nous étions au restaurant. Il était environ 2h de l'après-midi et nous avons entendu un bruit comme si le pneu d'une voiture explosait. Les gens couraient dans tous les sens sans leurs chaussures ni leurs sandales. Certains avaient des vêtements pleins de sang. L'un d'eux est venu vers nous et nous a raconté ce qui s'était passé. Il disait un tireur a fait irruption dans la mosquée. Il a tiré sur tout le monde. Heureusement, j'ai pu me cacher dans les toilettes. Et quand le tireur est entré dans le hall, je suis sorti en courant par la porte. Et me voilà, je suis chanceux. J'ai pu me sauver. Voilà ce qu'il disait.
Le tueur a finalement été arrêté. Aussitôt après, la première ministre Jacinda Ardern a dénoncé un acte terroriste, parlé d'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Au même moment, sur Internet, sur un forum de discussion, on pouvait lire le manifeste de plusieurs dizaines de pages que le tueur avait posté. Il y dénonce les immigrants qualifiés d'envahisseurs. Alors, ce qu'a écrit le tueur précisément, ce qu'il faut comprendre et penser du fait qu'il dit que ce qu'il a vu en France l'a inspiré, comment certains réagissent ce soir dans le monde, c'est maintenant dans l'édition spécial que RFI vous propose. L'émotion est vive dans le monde. Nous irons en Allemagne, en Turquie tout à l'heure. Mais commençons par nous rendre à Paris. Timur Özürk s'est rendu à la salle de prière du quartier de Javel, dans le 15e arrondissement de Paris. Les musulmans qu'il y a rencontrés sont bien sûr sous le choc.
Avant l'heure de la prière, les fidèles patientent dans la rue, tous ont appris la nouvelle, secoués, consternés par ce massacre de musulmans.
Les religions, ça ne doit pas nous séparer. On est tous humains, hein. Avant que ce soit croyant, on est tous humains.
Othman, lui aussi, est révolté par ces assassinats de fidèles dans des lieux de culte.
Tu es des innocents, je ne parle pas en tant que musulman, mais que ce soit des juifs, des chrétiens, des non-croyants, on se dit, mais attends, mais on est en 2019, mais on n'est pas libre de croire à ce qu'on veut, là.
Des mosquées frappées par l'extrême droite, pour Othman, cette attaque est la conséquence d'un climat islamophobe en Occident où l'idée que les musulmans représentent un danger a pénétré les esprits.
C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Terroriste égale musulman.
Beaucoup de fidèles partagent la crainte que des islamophobes puissent passer à la violence physique, organiser des attaques terroristes. Un sentiment de peur, une tension que ressent Bekir.
Maintenant, en effet, dans un pays comme la Nouvelle-Zélande où on pensait risquer rien, qui était en paix, se fait attaquer comme ça. Ça réveille des inquiétudes, ça réveille la haine chez certaines personnes, mais faut pas cultiver cette haine en nous et garder la foi et rester en paix.
Aujourd'hui, une patrouille de police stationne devant la salle de prière de Javel. Les croyants sont loin d'être paniqués, mais cette présence exceptionnelle les rassure un peu.
Et la surveillance des lieux de culte en France va être renforcée, vient d'annoncer le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le tueur est australien. Le carnage a eu lieu en Nouvelle-Zélande, à 19 000 km de Paris. Or, dans la tête du terroriste, tout a commencé en France. Il l'explique dans un manifeste dans lequel il s'auto-interviewe, 74 pages dans lesquelles il livre ses justifications. La France occupe une place centrale dans son cheminement vers la violence. Il écrit ceci par exemple, « C'est là en France que j'ai décidé de faire quelque chose, c'est là que j'ai décidé d'agir, d'user de la force et de la violence, de combattre les envahisseurs moi-même. » Bonsoir Jean-Yves Camus, vous êtes un grand spécialiste de l'extrême droite en France. Justement, le tueur a intitulé son texte « Le grand remplacement ». Cela fait référence à une théorie du complot d'extrême droite popularisée en France par l'écrivain Renaud Camus.
Oui, tout à fait. Mais précision extrêmement importante vu la gravité des faits qui se sont produits ce matin en Nouvelle-Zélande. Renaud Camus n'a jamais prôné la violence. Il est effectivement l'inventeur du concept de grand remplacement qu'il a exposé dans un livre éponyme.
Qui date de quelle année ?
Écoutez, du début des années 2000, me semble-t-il, mais il n'est pas dans une démarche violente. Il n'a jamais appelé à l'utilisation du terrorisme, ou même de la violence tout court, et je ne pense pas qu'il soit quelqu'un qui partage les vues, je suis même certain qu'il ne partage pas les vues, de cet homme qui se décrit comme un fasciste, comme un ethno-nationaliste, qui fait un certain nombre de références aux idées de la suprématie blanche telle qu'exprimée par les groupes les plus extrêmes existants aux États-Unis, et ça, ça n'est pas Renaud Camus.
Mais quand on parle de l'écrivain Renaud Camus, on parle d'un penseur d'extrême droite. Qu'entend-il par le grand remplacement ?
Alors, on parle de quelqu'un qui, originellement, ne vient pas du tout de l'extrême droite et qui, au fil des années, a effectivement changé idéologiquement, puisqu'il est désormais convaincu que existe un vaste chamboulement de la population française qui va voir les, entre guillemets, Français de souche remplacés par les immigrants extra-européens, à la fois à cause des arrivées d'immigrants et de réfugiés, et puis à cause de la démocratie. Donc il fait partie de ces gens qui pensent que la civilisation occidentale est en train de mourir sous les coups d'abord de l'idéologie libérale libertaire et de sa propension à favoriser le multiculturalisme, mais aussi par une sorte d'ethnocide qui résulte à la fois de l'immigration et puis du différentiel démographique entre les populations européennes et les populations non européennes.
Le passage à l'acte et à la violence mis à part, on retrouve ce que dit le tueur en Nouvelle-Zélande quand il dit « J'ai vu en France et en rage, notamment dans des villes de l'Est de la France, des envahisseurs, des non-blancs qui étaient partout, peu importe où ils se rendaient. Un flot de ces envahisseurs passait les portes d'un centre commercial et j'ai donc dû quitter la ville. » On retrouve les mêmes arguments, la même base idéologique ?
Non, non, pas complètement, parce que cet Australien qui voyage en France aurait dû quand même ouvrir un petit peu un livre ou un journal français avant de partir et de prendre son billet. Il avait sans doute en tête l'idée d'une France qui ressemble encore à la France des années 1920-1930. Partir dans une ville de l'Est de la France sans savoir qu'effectivement il réside de très longue date des communautés, soit marocaines, soit turques, qui elles-mêmes ont succédé à des communautés polonaises, italiennes, espagnoles, c'est vraiment partir en terrain inconnu et en quelque sorte comme si on allait dans une réserve indienne, alors qu'évidemment il est évident pour tout le monde qu'aujourd'hui, même dans les villes moyennes de France, il parle d'une ville de 15 à 25 000 habitants, il y a une population d'origine étrangère, non européenne. Voilà, et personne ne fuit en règle générale quand il va dans un supermarché et s'aperçoit que tous les clients ne sont pas blancs.
Cet homme est présenté comme un suprémaciste. Est-ce qu'il y en a en Europe ? Est-ce que ce mouvement existe en tant que tel ? On en parle beaucoup aux États-Unis, mais en Europe ?
Le berceau, c'est les États-Unis. D'ailleurs, le terroriste utilise dans son manifeste une expression qui a été forgée dans les années 80 par David Lane, l'un des grands idéologues du suprémacisme blanc, et cette devise est « Nous devons assurer l'existence de notre peuple et un avenir pour les enfants blancs ». Bon, c'est une preuve supplémentaire qu'on est véritablement dans une idéologie de type néo-nazi, mais pas du tout celle de Renan Camus, qui écrirait évidemment pas ça. Alors oui, il existe des suprémacistes blancs un petit peu partout en Europe, dans les milieux néo-nazis, c'est-à-dire des gens qui pensent véritablement qu'il existe une race supérieure, qui est la race blanche, et que les autres sont des races inférieures, pas seulement différentes, mais inférieures.
Je reviens à ce qu'il dit aussi dans ce manifeste, y avoir été impacté par des choses qui se sont passées en Europe au printemps 2017, notamment la présidentielle en France, le deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La possible victoire d'une quasi-nationaliste était pour moi le signe qu'une solution politique était toujours envisageable. Et finalement, bien il étrille la patronne du Front National, devenue le Rassemblement National, comme molle, comme incapable. D'après lui, sa défaite l'a plongé dans le désespoir. Est-ce que le fait de lier son acte au nom de Marine Le Pen pose un vrai problème ce soir à la présidente du Rassemblement National, à son corps défendant ?
Écoutez, à son corps défendant sans doute, mais quand on lit le manifeste, on s'aperçoit effectivement que cet homme semble avoir atterri en France sans avoir la moindre idée de ce qu'est la configuration politique du pays. S'il a cru à la victoire de Marine Le Pen, il fait partie de ceux qui se sont laissés abuser. Il explique plusieurs fois que Marine Le Pen est, je traduis exactement le terme, une fifmole. Il répète que c'est une incapable, et finalement, pour lui, le Front National est un parti mollasson qui ne représente aucunement l'idéologie qu'il défend. Donc il a cru à un moment donné effectivement que la victoire était possible, et puis il s'aperçoit qu'au fond le système démocratique ne permet pas à sa famille politique d'être majoritaire, et il explique donc que c'est là qu'il décide d'abandonner ses idées démocratiques et de passer à l'acte terroriste. Mais encore une fois, il s'est parfaitement trompé sur la nature du Front National, dont on peut dire beaucoup de choses, mais enfin, certainement pas que c'est un parti suprémaciste blanc.
Merci Jean-Yves Camus. Je précise que vous dirigez l'Observatoire de la radicalité politique au sein de la Fondation Jean Jaurès. Et je précise aussi que Renaud Camus, dont nous parlions il y a de cela quelques minutes, a dénoncé tout à l'heure les attaques contre les mosquées en Nouvelle-Zélande en les qualifiant de terroristes, d'épouvantables, de criminels, de désastreuse et d'imbécile. Sachez aussi que le suspect de l'attentat n'est pas connu en France, annonçait tout à l'heure Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Édition spéciale sur RFI.
Philippe Le Caplain. 19h21 ici en France, dans RFI Soir, la suite de l'édition spéciale consacrée au massacre perpétré ce matin en Nouvelle-Zélande. Bonsoir Barthélémy Courmont.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'Université catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS. Vous avez vécu à Wellington, d'autant que votre épouse, si vous me permettez de le dire à l'antenne, est néo-zélandaise, donc vous connaissez bien ce pays. Le tueur enjoint dans son manifeste, je le cite, l'Occident blanc a élevé son taux de fertilité sous peine d'un remplacement culturel et racial complet du peuple européen, évoque un génocide blanc du fait de l'immigration de masse et des envahisseurs. Il parle beaucoup de l'Europe. Or, nous sommes en Nouvelle-Zélande. C'est un contexte quand même très particulier.
C'est effectivement quelque chose auquel on ne pouvait absolument pas s'attendre dans le cas de la société néo-zélandaise, où vous avez une population musulmane qui est en forte progression depuis quelques années, mais qui reste très modeste. On est à environ 1% de la population néo-zélandaise qui est de confession musulmane. Et puis elle est surtout très bien intégrée. Vous avez une multitude de témoignages qui font état de l'excellente intégration de cette population. Donc pas de problème de stigmatisation de population, pas de problème de tension interraciale ou interreligieuse, on a d'une certaine manière sur ce terrain une société un petit peu idéale. En revanche, et la nationalité celui qui a orchestré ces attaques est assez significative à ce titre, l'Australie est confrontée à de gros problèmes en matière d'islamophobie, des problèmes qui vont concerner un certain nombre de groupes d'extrême droite auxquels sans doute il a été sinon allié, au moins identifié comme sympathisant, mais aussi de manière peut-être plus préoccupante, des responsables politiques qui n'hésitent plus désormais, de manière très décomplexée, à adopter des discours, des postures et proposer des solutions qui sont profondément...
Et vous pensez que ce qui s'est passé ce matin va raidir les positions des uns et des autres ? Vous le craignez ?
Alors, le problème, effectivement, c'est que comme c'est nouveau en Nouvelle-Zélande, et comme il y a cet effet de contagion, entre guillemets, avec une situation qui est beaucoup plus préoccupante dans le cas de l'Australie, on peut se demander dans quelle mesure les Néo-Zélandais ne risquent pas de rester un petit peu sonnés face à cette situation. Et on sait à quel point on peut s'interroger sur la fragilité de ce consensus au sein d'une société qui est composée, rappelons-le, d'immigrants pour une très très vaste majorité, hein, à part les Maoris qui sont aujourd'hui fondus avec les autres peuples du Pacifique. Il n'y a pas de Néo-Zélandais de souche, si on peut les choses ainsi. Mais toujours est-il que ce melting pot qui fonctionne très bien se retrouve de fait, pour la première fois, exposé à une véritable crise. Alors, Gageons que les propos du Premier ministre néo-zélandais, Mme Ardern, qui ont été d'une grande sagesse, notamment en rappelant que c'est bien évidemment quelque chose de catastrophique, mais aussi surtout que ceux qui sont morts sont avant tout néo-zélandais. Gageons que cela pourra réduire les tensions, mais il y a...
Donc il y a concorde, bien évidemment, en Nouvelle-Zélande ce soir, avec une sorte de « je suis Wellington », certainement quelque chose qu'on verra apparaître dans les heures qui viennent sur les réseaux sociaux. Autre chose, Barthélémy Courmont, dans son texte, le tueur fait référence au chevalier justicier, dit-il, qui est Andrés Behring Breivik, qui en Norvège, en juillet 2011, avait tué 77 personnes.
Oui, alors c'était à l'époque un assassinat politique, hein, puisque on se souvient que Breivik avait ciblé des activistes de partis de gauche, des jeunes représentants de partis de gauche, mais de fait, il appartenait lui-même à cette mouvance plus ou moins identifiée comme d'extrême droite, suprémaciste, et effectivement propageant ce type de discours. Donc il a annoncé dans son manifeste avoir reçu la bénédiction de Breivik, qui est quand même assez significatif. J'ai envie de dire que c'est ce qui pose problème véritablement. Il a été clairement influencé. Alors, il a raconté aussi son expérience en France, son passage en France. Il a été influencé par un certain nombre de personnages. Le risque est bien évidemment qu'il puisse à son tour en influencer d'autres. Et le fait que son crime soit diffusé sur les réseaux sociaux est à ce titre extrêmement préoccupant.
Et pas qu'un peu, puisque ça a duré 17 minutes sur une application Live4 utilisée par les amateurs de sport extrême, partagée ensuite sur Twitter, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Instagram, qui appartiennent toutes à Facebook. Merci pour ces analyses, Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Je vous propose maintenant de rejoindre Anne Andlauer, qui est en Turquie pour Radio France Internationale. Cette attaque en Nouvelle-Zélande a provoqué une vive émotion dans ce pays dont la population est très majoritairement musulmane. Le président Erdogan a été l'un des premiers dirigeants à condamner l'attentat dans lequel 3 Turcs ont été blessés, Anne.
Oui, et à Istanbul et à travers toute l'Anatolie, aujourd'hui, des fidèles se sont rassemblés à l'issue de la prière du vendredi pour condamner cette attaque en Nouvelle-Zélande. Devant la grande mosquée de Fatih à Istanbul, le moufti de la ville a conduit une cérémonie funéraire pour les victimes de l'attentat, une cérémonie symbolique dans un lieu symbolique, puisqu'il s'agit de la mosquée où repose Mehmet II, le sultan qui a conquis Istanbul. Or, cette attaque en Nouvelle-Zélande a d'autant plus ému ici que dans un manifeste publié sur les réseaux sociaux avant la fusillade, le tueur avait exhorté à reconquérir Istanbul, l'ancienne Constantinople, et à en détruire toutes les mosquées. Il avait aussi appelé au meurtre des Turcs vivant en Europe et du président Recep Tayyip Erdogan.
Le président turc voit dans ses attaques un nouvel exemple de la hausse du racisme et de l'islamophobie, hein, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure.
Oui, dans un discours à Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a estimé qu'avec cet attentat, l'hostilité envers l'islam avait franchi, je le cite, les limites du harcèlement individuel pour atteindre le niveau d'une tuerie de masse. Le président turc y a aussi vu la preuve, je le cite toujours, que la vision portée par le tueur avait commencé à gagner du terrain en Occident comme un cancer. Recep Tayyip Erdogan a ensuite appelé les pays occidentaux à prendre d'urgence des mesures pour éviter de nouvelles catastrophes, a-t-il dit. Signe encore de l'émotion, mais aussi de l'inquiétude que ces attaques provoquent en Turquie, le président Erdogan a dépêché en Nouvelle-Zélande son vice-président, Fuat Oktay, et son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu.
Voilà donc pour la situation en Turquie. Bon nombre de pays se sentent concernés ce soir. Pour preuve, le fait que les autorités bulgares viennent d'ouvrir une enquête sur les motifs d'un séjour effectué en Bulgarie en novembre 2018, donc il y a de cela quelques semaines, par le tueur de Nouvelle-Zélande. Attentat qui a suscité une vague de condamnation dans le monde entier, du pape François à la reine Elisabeth II, en passant par le président américain Donald Trump, et puis bien évidemment condamnation sur Twitter par le président de la République française. Voilà donc pour cette édition spéciale réalisée par Hélène Avril, rédaction en chef de Jacques Alix. Nous y reviendrons bien évidemment sur les derniers développements de ce massacre tout au long des prochaines heures dans chaque journal sur Radio France Internationale.